7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est ministre de la Transition écologique et solidaire.
Et ministre d'État, bonjour Nicolas Hulot.
Bonjour.
Votre parole est rare, merci d'avoir choisi France Inter. Beaucoup, beaucoup de sujets à aborder avec vous, mais d'abord, depuis que vous êtes au gouvernement, vous avez coutume de citer Nelson Mandela, « Soit je gagne, soit j'apprends ». Est-ce qu'on peut dire que depuis 6 mois, vous apprenez beaucoup ?
J'apprends et je gagne sur certaines choses. Vous venez d'évoquer la perspective qui a été donnée hier par le président Macron sur les états généraux de l'alimentation. Moi, si je reviens en arrière dans l'histoire, je ne sais pas si un président comme Jacques Chirac, que j'aime par ailleurs beaucoup, aurait tenu ce langage aux agriculteurs. Il a tracé une sacrée perspective sur le changement en profondeur du mode alimentaire et agricole.
Suffisant. Ce que je veux dire, c'est que ces états généraux de l'alimentation, Nicolas Hulot, vous en aviez rêvé pendant la campagne.
Oui,
vous en avez fait une condition de votre entrée au gouvernement et vous rêviez d'une grande réflexion sur l'agriculture et l'environnement.
Cette grande réflexion, elle est partie. Franchement, la méthode est très importante. Vous savez, plus qu'au-delà des objectifs, la méthode, c'est-à-dire ne pas stigmatiser, que chacun fasse preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Et je crois que ce qui est en train de se passer, c'est normal que les calages soient difficiles au départ, parce que d'abord, on a affaire, pour une partie du monde agricole, à un monde en détresse. Et donc, si vous les agressez d'emblée, effectivement, il n'y a pas de dialogue. Et moi, dans tous les sujets que je porte, je pense que le temps est le meilleur allié. Et puis après, on définit quelque chose, un objectif, et qui va atterrir d'ailleurs par une loi. Franchement, depuis hier, je suis très rassuré. Et je pense que ça aussi, c'est une avancée. Et donc, j'apprends, mais aussi, nous avançons. Pas plus que pas à pas. Ce qui est très important, c'est de ne pas avoir des petites ambitions, des grandes ambitions, quitte parfois à prendre un petit peu plus de temps pour y parvenir.
Emmanuel Macron a donc annoncé qu'il va légiférer par ordonnance pour mieux rémunérer les agriculteurs. Est-ce que dire la vérité, c'est de dire que oui, les prix du lait, du porc, des fruits et légumes vont augmenter l'an prochain ?
Mais oui, moi d'abord je pense qu'il faut une sincérité surtout, il faut dire les choses. Si on venait dans un premier temps, le temps que les filières s'organisent, parce que ça n'est pas une fatalité, si on veut une agriculture de qualité, de proximité, si on veut rétablir la confiance entre le monde agricole et les consommateurs, si on veut encourager effectivement les nouvelles filières qui d'ailleurs émergent spontanément au départ sans même qu'il y ait eu de soutien.
Et moi, il faut payer plus.
Il faut dans un premier temps probablement le faire, mais le temps que les filières s'organisent et qu'on change d'économie d'échelle.
Emmanuel Macron, candidat, avait promis que d'ici 2022, il y aurait au moins 50% de produits biologiques, labels de qualité ou local dans les cantines françaises.
Il a réitéré son engagement hier et on va créer vraiment les conditions pour y parvenir, ce qui est très intéressant.
Ça veut dire combien de bio ? Parce que bio, label de qualité ou local, ça ne veut pas dire la même chose.
Non,
ça veut dire combien de bio dans les cantines françaises ?
Non, écoutez, moi, je m'en tiens aux 50% de bio, mais franchement, après on peut regarder à la virgule, c'est comme le 50% nucléaire. Ce qui est important, c'est d'inverser les tendances. C'est ça qui est très important, et de changer d'échelle. C'est-à-dire changer d'échelle dans les énergies renouvelables, changer d'échelle dans l'agroécologie, changer d'échelle dans le bio. On sera à 48, on sera à 47, on sera à 50, on sera peut-être à 55%. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que les dynamiques partent et qu'elles soient irréversibles.
Et est-ce que c'est pas incohérent de promouvoir le bio dans les cantines au moment où l'État supprime les aides au maintien de l'agriculture biologique ?
Alors écoutez, ça peut sembler incohérent, mais enfin, pardon de vous le dire, mais quand il y a eu un transfert d'un pilier à l'autre, l'idée aussi, c'était d'aider toutes les autres formes d'agriculture, pas simplement le conventionnel. Il y a aussi l'agriculture de montagne. Et puis, encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est ce qui va être décidé dans les états généraux de l'alimentation et ce qui va conditionner, après, la politique française dans la réforme de la politique agricole commune. C'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance aux états généraux, parce que pour moi, c'est ce qui va être le plus structurant sur les 20 prochaines années.
Nicolas Hulot, Le Parisien a annoncé hier en une que vous réfléchissiez à taxer les bétonneurs qui construisent sur des espaces naturels, notamment les centres commerciaux qui s'implantent de plus en plus sur les terres agricoles. Une taxe, une nouvelle taxe pour financer la biodiversité, est-ce que vous confirmez ?
Bon, alors, ce que je confirme, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que dans beaucoup de domaines en ce moment, j'apprends beaucoup de choses que je suis censé faire, que j'ai même réalisées par les journaux, et comme je n'ai pas beaucoup le temps de lire les journaux, ça m'intéresse particulièrement. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que je veux lutter contre l'artificialisation des sols, qui est une plaie, qui est un fléau, lutter contre cette gourmandise qu'on a à sacrifier des terres agricoles, pas toujours d'une manière justifiée. Donc, on est en train de réfléchir à une stratégie.
Est-ce qu'une taxe béton, ça pourrait être une option.
On peut penser à l'incitatif et du dissuasif. D'ailleurs, dans ma discussion que j'ai eue hier soir avec le président, je pense que sur la fiscalité écologique, il faut qu'on ait un dispositif objectif beaucoup plus fin que ce qu'on a. Il faut de l'incitatif, il faut du dissuasif et il faut du progressif. Il y aura probablement un instrument. Mais on est en train d'y travailler.
Donc ça, vous ne confirmez pas cette taxe bouton.
Je ne confirme pas en l'état, parce que ce que je confirme, c'est qu'on va mettre en place un dispositif et qu'effectivement, si la France veut avoir notamment une souveraineté en matière alimentaire, il faut qu'elle conserve suffisamment de terres agricoles pour pouvoir acquérir cette souveraineté.
Alors, puisque vous parlez de souveraineté, autre sujet brûlant, l'Union européenne doit décider dans les prochains jours si elle autorise la reconduction pendant 10 ans du glyphosate, cet herbicide jugé dangereux. La France votera contre cette autorisation, ça on le sait déjà, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer ce matin que le glyphosate sera interdit avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron?
Bon, d'abord c'est là, vous voyez, vous me dites, vous m'avez sorti la phrase de Mandela sur ce que je gagne.
C'est vous
qui
la sortez.
Non, mais parce que je l'adore cette phrase. D'ailleurs, tout ce que dit Mandela, quand il dit « nous réduire ne rend pas service au monde », je l'ai suggéré au président hier dans son discours, il ne l'a pas repris, mais « nous réduire sur les ambitions des OGA, c'est pas rendre service à l'agriculture ». Bon, bref, c'était quoi la question?
La question, c'est est-ce que le glyphosate sera interdit d'ici la fin du quinquennat? Vous souhaitez 2-3 ans.
Là aussi où je gagne, si j'étais pas intervenu, on s'apprêtait, ce qui est une folie absolue, à réautoriser le glyphosate pour 10 ans. Je peux vous dire qu'on se revoit dans 10 ans, il ne se passait rien. Alors, entre le réautoriser assorti d'aucune autre condition et puis l'interdire brutalement demain matin sans autre réflexion, je pense qu'il y a un juste milieu. Ce que je peux simplement vous dire, dans ce domaine comme dans d'autres, tout ce qui est en dehors du quinquennat ne m'intéresse pas. Ça ne sert à rien d'être là.
Donc, vous demandez clairement que ce soit fait avant la fin du quinquennat.
Évidemment, avant la fin du quinquennat, et nous sommes en train de travailler, mais tout ça assorti d'un certain nombre de dispositifs. On va évidemment mettre des moyens très importants sur la recherche, mais feindre d'ignorer maintenant ce faisceau de présomptions qui convergent sur cette substance et sur d'autres, mais même les jeunes agriculteurs sont prêts à l'entendre, d'abord parce que moi je suis là pour protéger en priorité les agriculteurs, mais c'est comme tous les sujets que je porte, on ne peut pas non plus être totalement brutal parce qu'on ne peut pas ignorer les difficultés dans lesquelles ils sont. Mais de dire qu'il n'y a aucune alternative, ce n'est pas non plus totalement vrai.
Je retiens donc que vous voulez que ça se fasse avant la fin du quinquennat. Ségolène Royal, qui était au micro de France Inter il y a quelques jours, propose de réserver exclusivement les allègements fiscaux de l'ISF aux investissements verts, à la croissance verte. Est-ce que c'est une bonne idée que vous avez suggérée à Emmanuel Macron qu'il la reprenne?
Pareil, je ne savais pas qu'elle avait fait cette proposition. Moi, je prends toutes les propositions pour les évaluer, parce que je pense qu'il va falloir qu'on soit très créatif en matière de fiscalité. Il ne faut pas que la fiscalité...
Donc pourquoi pas l'ISF aller dans la croissance verte?
Je ne suis pas en train de vous dire, parce que vous m'apprenez, donc je ne vais pas me jeter sur une idée comme ça, mais je suis preneur de toute idée. Je pense qu'on n'est pas créatifs, suffisamment créatifs en matière et de financement innovant, et de fiscalité écologique, et j'insiste bien pour sortir de cette ce vieux préjugé de dire que la fiscalité écologique, elle n'est que punitive, elle doit être incitative et elle doit être dissuasive, mais de manière progressive.
Encore deux autres questions de fond. D'abord, l'Assemblée nationale a adopté largement mardi votre projet de loi sur la
pas
fin...
Pas mal non plus, non?
C'est vous qui dites, sur la fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures en France d'ici 2040. Comment expliquer que vous preniez une sortie des énergies fossiles d'ici 20 ans et que dans le même temps, vous renouvelez, il y a 3 semaines, l'autorisation exclusive de forage à Total en Guyane? Comment c'est possible? Elle est où la cohérence?
Mais c'est excessivement cohérent parce que ça aussi, c'est assez symptomatique. Je suis le premier à être très exigeant. J'aurais pu, j'ai la possibilité d'interdire le renouvellement. Mais là, on rentre dans des contentieux.
Ségolène Royal l'avait interdit.
Oui, mais attendez, moi je fais une loi et ce que je veux, c'est que cette loi ne soit pas retoquée par le Conseil constitutionnel. Il y a des droits acquis, avec des droits de suite. J'aurais plus d'autorité de dire on arrête, puis je sais que ma loi aurait été fragilisée. Donc là, on va focaliser sur les petits peu qui va passer après 2040, mais on voit pas quand même le geste fort qui donne crédibilité et autorité à la France, qui est le premier grand pays à interdire l'exploitation de ces hydrocarbures dans son sol. Très sincèrement, je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga de la transition énergétique, mais je suis le premier souvent à râler le soir, mais là je peux vous dire que je suis assez satisfait.
Nicolas Hulot, Notre-Dame-des-Landes, la construction ou pas de l'aéroport? On attend le rapport des médiateurs qui doit arriver, vous l'attendez, d'ici 2 mois. Vous dites « je me plierai à la décision du gouvernement ». Question très claire, si les médiateurs disent « oui, il faut construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes », est-ce que Nicolas Hulot reste dans le gouvernement?
Écoutez, chaque chose en son temps, mais c'est pas une langue de bois. Vous savez, je bosse 18 heures par jour, j'ai ce point focus en fin d'année, mais je le regarderai quand le problème arrivera, et quand le problème, la solution, je ne sais pas...
C'est pas une ligne rouge pour vous?
C'est un sujet important parce que pour moi c'est plus qu'un symbole.
C'est un marqueur.
Mais je veux pas, comment dire, vous dire les choses. C'est parce que c'est plus que symbolique. C'est pour moi, c'est encore une fois, mais je veux pas m'exprimer sur le troisième homme parce que j'ai encore me faire engueuler. On va me dire, tu n'es pas neutre. Donc, on connaît ma position.
Chaque chose en son temps.
D'ici fin décembre, j'ai tellement de choses à faire. Et puis, croyez-moi, j'assumerai mes responsabilités quand la décision sera prise.
Allez, dernière question. Le temps venu, il n'est pas encore là. J'évaluerai mon utilité au gouvernement, avez-vous dit. Est-ce que le temps venu, c'est décembre et c'est Notre-Dame-des-Landes?
Moi, je suis au jour le jour. Au jour d'aujourd'hui, je me sens très utile. Voilà. Et puis, en décembre, vous me reposez la question?
Je vous repose la question en décembre, on a compris. Vous restez au gouvernement, vous êtes heureux, parce qu'il n'y a pas un jour qui passe sans un article sur les états d'âme de Nicolas Hulot, malheureux.
Ça, c'est très marrant, parce que ça fait partie des rumeurs urbaines, et je les découvre, y compris mes propres états d'âme. Donc, je suis ravi d'être informé, mais tout va bien.
Tout va bien, Nicolas Hulot. Belle journée à vous.
Merci.